Mario Dumont et Vincent Desureaux.
Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
Alors, avec nous, je ne sais pas si on la présente comme auteur, l'ex-ministre, animatrice de radio, Nathalie Normandeau, bonjour.
Bonjour Mario, non, auteur, c'est un peu pompeux.
C'est trop pompeux, auteur, mais là, un livre, oui, oui. Quand on écrit un livre, on est auteur, non?
Ouais, mais enfin, je suis pas auteur de profession, c'est ma première expérience en la matière, mais c'est gentil quand même d'y référer. Mais oui, je préfère animatrice, honnêtement, je préfère animatrice.
Debout devant l'injustice, c'est le titre de ce livre qui sort dans quelques jours. La première question, ça va être la première question quasiment du premier chapitre. Pourquoi ce livre? Parce que vous le faites l'exercice de soulever à haute voix la question face à une situation comme ça, on enterre ça puis on passe à d'autres choses, ou bien on écrit un livre pour repasser toute l'histoire. Pourquoi le livre?
Ben, le livre, c'est important pour moi pour plusieurs raisons. Un, je n'ai jamais pu exposer ma version des faits, ni aux autorités policières, ni aux juges. Et donc, j'ai jamais pu exposer, comme je le souhaite, ma version des faits par rapport à ce qui m'est arrivé. Deuxièmement, je voulais communiquer au public la façon dont j'avais vécu mon expérience avec la justice. Et troisièmement, c'est une histoire, je crois, bien humblement, qui mérite d'être racontée. C'est la première fois dans l'histoire qu'une ex-ministre, de surcroît vice-première ministre, est arrêtée pour des gestes de nature criminelle qu'elle aurait posés dans le cadre de ses fonctions. Alors, c'est une histoire hors norme qui, selon moi, mérite d'être racontée. Et j'avais aussi le goût de partager avec le public les motifs qui ont conduit l'UPAC, qui a conduit l'UPAC, pardon, à m'arrêter et le DPCP à m'accuser.
Beaucoup de gens vont voir ça, vont appeler ça, vont nommer ça un règlement de compte. Je l'ai déjà vu d'ailleurs, Nathalie Normandeau règle ses comptes. Est-ce que c'est bien formulé? Est-ce que ça reflète votre intention?
Pas vraiment, en fait. C'est plus nuancé que ça. Puis d'ailleurs, je l'écris en introduction, hein, que le but d'exercice, ce n'est pas de régler mes comptes, justement. Par contre, il y a certains passages dans le texte qui vont laisser l'impression du contraire. J'ai pas été étonnée de voir la une journal de Montréal et de Québec ce matin, parce qu'effectivement, par rapport à la critique que je formule à l'endroit, notamment de Robert Lafrenière, je peux donner l'impression de régler des comptes. Mais ce qui est important pour moi, c'est de dire les choses telles non seulement que je les ai vécues, mais c'est également de partager ce que j'ai découvert au fil des mois et des années qui se sont écoulées. Parce que ce livre-là, dans le fond, c'est comme un casse-tête que j'ai réussi à assembler. Lorsque j'ai été arrêtée à 6h du matin, le 17 mars 2016, moi, j'avais absolument aucune idée là des motivations qui ont pu conduire, par exemple, Robert Lafrenière à procéder à mon arrestation. Mais avec les jours et les semaines qui se sont écoulées, là, je me suis mis à faire des liens. Et là, j'ai compris que mon arrestation avait plus à voir avec la politique, mais pas dans le sens partisan du terme, que la police. Et là, alors il faut juste rappeler, hein, arrêter le jour du budget. Et puis avant moi, et en fait, il y a eu mon arrestation, il y a eu Guy Ouellet après, puis entre les deux, il y a eu Sam Ahmad. Alors, il y a eu toute une opération qui s'est déployée sur le plan policier et pour permettre à Robert Lafrenière d'être renouvelé dans ses fonctions. Puis chaque fois que je le dis, Mario, j'admets moi-même que c'est gros comme histoire. C'est abracadabrant. Ça peut sembler surréaliste, mais jusqu'à ce jour, je n'ai trouvé aucune autre explication que celle-là.
Et ça apparaît, pour les gens sans expérience politique ou sans connaissance de la politique, ça apparaît abracadabrant parce qu'on dit, OK, il a arrêté, ouais. Lafrenière aurait arrêté des libéraux, ben, dont vous la plus en vue de loin, le matin d'un budget, donc disons quelque chose qui fait suer les libéraux, alors qu'il voulait être renouvelé par les libéraux. Fait que si tu regardes ça, quelqu'un qui comprend ça, un et un font deux, il dit, ben voyons donc, si tu veux être renouvelé par les libéraux, tu fais pas suer les libéraux, là, ils vont se venger.
Oui, effectivement.
Je vous amène ça au plus simple, parce que il y a des gens qui se posent cette question-là.
Oui, non, mais c'est effectivement très bien posé, très bien dit. Mais ce qui étonne, c'est que, oui, pourquoi mener une opération comme celle-là le jour du budget? Alors que Robert Lafrenière a toujours soutenu publiquement que il n'y avait pas l'agenda des planètes, l'agenda des enquêtes, pardon, compte était aligné avec les planètes, qu'il n'y avait pas, il y a rien n'avait été devancé, alors qu'il y a un de ses enquêteurs qui est allé le contredire un an plus tard. Moi, mon hypothèse, c'est de dire qu'il voulait, il n'était pas le favori du gouvernement. Il y avait Denis Galland qui était le favori du gouvernement. Denis Galland, qu'on a connu à la commission Charbonneau, qui est passé à travers tout le processus. Ouais.
La rumeur veut que la décision était presque prise de le tasser, là. Presque prise, sinon prise.
Oh oui, c'est-à-dire de le tasser Robert Lafrenière. Oui, tout à fait, absolument. Même que Denis Galland est passé à travers toutes les étapes des emplois supérieurs pour être nommé à ce poste de commissaire de l'UPAC. Bon, je dis dans le livre, Robert Lafrenière a dépassé le gouvernement par la droite, puis il a obtenu, dans le fond, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire ébranler les colonnes du Temple. Et comment un gouvernement dirigé à l'époque par Philippe Couillard aurait pu congédier Robert Lafrenière alors qu'il venait d'arrêter une libérale? Philippe Couillard aurait projeté l'image d'un premier ministre qui défendait une de ses anciennes collègues, qui défendait sa gang. Alors, Philippe Couillard, son réflexe, il a vraiment pris sa distance et c'est comme ça que le mandat de Robert Lafrenière a été renouvelé.
Est-ce que vous dites, dans le fond, en vous arrêtant, il a menotté le gouvernement d'une certaine manière?
Clairement. Il a fait plier le gouvernement. En fait, il a fait plier le gouvernement. C'est une façon pour lui, en même temps, pour Robert Lafrenière, j'entends, de... Il a bradé l'autorité du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale, entre autres avec le contexte qui a conduit à l'adoption du fameux projet de loi qui a fait naître l'UPAC comme corps de police indépendant. Là, faut se rappeler l'arrestation de Guy Ouellet, encore une fois, à bracadabrante, là, parce que toute cette histoire-là, en fait, le big picture, comme on dit en politique, là, le portrait là, d'ensemble, là, c'est incroyable ce qui a été fait là, lorsqu'on y pense.
Vous racontez avec beaucoup de détails là, les premières heures qui ont suivi votre arrestation et sans pudeur. En fait, vous nous faites vivre du point de vue émotif ces heures-là. Sur le plan humain, vous vouliez que les gens puissent se mettre dans votre peau, traverser, oui. Parce que c'est beaucoup de détails, c'est les larmes, tout est là. C'est vraiment sans pudeur.
Oui, sans pudeur. Mais en fait, j'ai écrit ce livre-là avec toute la transparence dont je suis capable. L'arrestation, c'est important parce que, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, mais au-delà de ça, comment dire, c'est un moment très puissant, puis très traumatisant pour moi, mais que je voulais partager avec le public parce que je me suis dit, ça va intéresser les gens de savoir qu'on est venu m'arrêter à 6 heures du matin alors qu'on aurait simplement pu me transmettre une promesse à comparaître. En fait, on a fait les choses pour, je parle d'un gros show là, de boucan. On a fait dans le spectacle, en fait, pour m'arrêter. Et ça a marqué les esprits, là. Mais pendant que Robert Lafrenière faisait sa conférence de presse, moi, j'étais dans une salle d'interrogatoire au Palais de justice de Québec, à verser toutes les larmes de mon corps, puis en me disant que ma vie est finie. Là, moi, j'ai vraiment cru que ma vie était complètement terminée. Je me suis dit, je voyais pas, il y avait pas de lumière dans le tunnel à ce moment-là. J'étais dans le tunnel, puis pour moi, c'était terminé. The game is over. Sachant très bien qu'une personne qui est arrêtée sur le plan criminel avec la justice parallèle qui existe dans notre société, je me suis dit c'est sûr que je vais être au bûcher là, je vais être condamnée avant même d'avoir pu exposer ma vision des choses.
Vous racontez les heures qui ont suivi, puis à un moment donné, vous reprenez un peu, bon, quand vous avez été habitué aux affaires publiques, vous relisez les actes d'accusation et votre regard s'arrête sur les co-accusés. Puis là, vous vous mettez à dire, voyons, qu'est-ce que c'était? Bon, il y a des gens qui viennent du monde des entreprises, dont certaines qui avaient fait affaire avec votre ministère, oui, là. Mais un autre, c'est un attaché politique du PQ dans Charlevoix. L'autre, c'est le maire de Gaspé, qui n'est pas identifié à votre parti, lui non plus. Vous êtes mis à trouver bizarre la liste de vos co-accusés, puis vous demandez, c'était où le bâton qui reliait toute cette brochette-là? C'était quoi le fil conducteur qui reliait tout ce monde-là?
Ben, honnêtement, il n'y en a pas de fil conducteur. Tout ça était cousu de fil blanc. Et là, j'explique dans le livre que oui, évidemment, j'ai travaillé avec François Roussy, qui était maire de Gaspé, mais travailler avec lui comme une ministre des Affaires municipales le ferait avec tous les maires des municipalités.
Monsieur Roussy, c'était un péquiste de toute façon. Là. Nommons les choses. C'était pas un libéral.
Non, effectivement, il n'avait pas la réputation d'être un libéral. Ernest Murray, l'attaché politique de Mme Marois, Pauline Marois, dans son comté, écoute, que j'ai jamais vu de ma vie. Voyons, j'aurais pu comploter, faire de la collusion, poser des gestes de collusion avec lui. Et là, je voyais les chefs d'accusation là, partir de, en fait, jusqu'en 2012, au moment où, de 2001 jusqu'à début des années 2000 jusqu'à 2012, voyons, toutes mes 13 ans à l'Assemblée nationale, j'aurais été impliquée dans ce genre de crime. Mais voyons, ça faisait pas de sens, là, tout ça. Là. Déjà là, je me suis dit, ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne tient pas la route. Je me suis dit ça assez rapidement parce que ça faisait pas de sens. Puis Bruno, mon chef de cabinet, Bruno Lortie, voyons voir si j'ai jamais fait de stratagème pour abuser de la confiance de fonctionnaires avec Bruno Lortie. Voyons, ça pour moi, ça avait ni queue ni tête, là, ces accusations-là.
Reste que, et vous le mentionnez, dans le public, il n'y aura jamais eu de jugement final ou d'acquittement. Ce sont finalement les délais qui ont eu raison du procès. Les délais étant dépassés, il y a eu un arrêt de Jordan, tout est tombé. Je vais vous poser une question. Avez-vous l'impression que le DPCP a fait exprès? Parce que moi, je vais vous avouer que des gens du monde du droit et de la politique et du monde déplacé qui me disaient, là, à l'époque, ils me disaient, le DPCP, ils vont être terriblement, ils ont rien contre elle, ils ont pas de dossier, leur preuve, ça a été une erreur de fait, ils sont mal pris avec ça, ils savent pas comment ça sortir. Est-ce que le DPCP s'est sauvé à face? Parce que dans le fond, l'arrêt Jordan, là, bon, ça arrête toutes les procédures. Pour vous, ça règle le problème. Vous êtes comme libéré de vos accusations. Mais ça fait aussi que le DPCP a jamais déposé sa preuve dans le scénario où elle est, mettons, faible pour être poli, là.
Absolument. Je partage tout à fait, Mario, votre point de vue, votre hypothèse. En fait, le DPCP a toujours gagné du temps. C'est l'impression qu'il nous a laissé, qu'il nous a donné pour éviter effectivement que tienne ce fameux procès que j'ai demandé. Par exemple, à l'étape de l'enquête préliminaire, tous les accusés ou criminels ont droit à une enquête préliminaire. Là, ça devait se déployer devant le tribunal un an après mon arrestation. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir tester la preuve du DPCP, aller au fond des choses. Mais là, ils ont sorti à la peine de leur chapeau, alors qu'on avait convenu du temps et du moment où l'enquête allait se tenir devant le juge et les audiences allaient se tenir. Ils ont décidé de ne pas tenir l'enquête préliminaire. Ils ont évoqué une exception, un privilège qui appartient au DPCP. Ben, j'étais complètement anéantie à ce moment-là parce que je me suis dit, là, j'ai compris que j'en aurais jamais de procès. Je me suis dit, si le DPCP ne veut pas ou donne l'impression d'avoir peur de tester sa preuve à l'enquête préliminaire, clairement, quel sera leur intérêt à aller au fond des choses. 3 ans après mon arrestation, ils ont décidé d'abandonner le 2/3 des chefs d'accusation me concernant. Alors, je pense que honnêtement, l'arrêt des procédures, ça a fait leur affaire, mais moi, ce qui me fâche dans tout ça, c'est que je me suis sentie poussée dans les câbles. Et aujourd'hui, c'est moi qui supporte l'odieux d'avoir eu recours à un arrêt des procédures, alors que c'est l'ultime recours qui est disponible, qui est offert à des gens accusés ou criminels, voyant évidemment les délais devenir déraisonnables. Alors, c'est ça qui me forge dans toute cette histoire-là, parce que je suis la seule, là, j'ai l'impression que je suis la seule qui va au bac pour expliquer, pour livrer sa vision des choses, alors que finalement, je me rends compte qu'il n'y en avait pas de preuves contre moi, puis ils ont décidé malgré tout de m'arrêter et de m'accuser. Le scandale, il est là, et selon moi.
Nathalie Normandeau, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, bonne
au
journée.
Debout bye devant bye. L'injustice, donc livre écrit par l'ancienne ministre.